va parler des sorties. Laurent, on va commencer par une fin. C'est la Flore partie 4 de l'Argentin Mariano Linas. C'est la fin d'un grand voyage de 13h34. Visuel, sonore, tactile, une expérience de cinéma de genre. La Flore, écrit Camille Nevers dans Libération, et le roman photo des vies qui l'ont fabriqué, aussi réflexive qu'introspective.
Diantre, comme c'est bien dit, mais c'est peut-être plus charnel que ça ce film. Les 34 minutes dont vous parliez, c'est la fin de la fin, c'est-à-dire c'est le générique de fin.
Bah oui, c'est normal.
Écoutez, c'est normal, quand vous avez 13 heures de film, vous avez 34 minutes de générique de fin, parce qu'il faut rendre hommage, il faut rendre, grâce à toutes celles et tous ceux qui ont participé pendant des années et des années à l'élaboration de ce film. Mais c'est un merveilleux générique de fin, avec notamment une interprétation de Mamoum de Jean Ferrat par un chanteur à la... Il le chante en français, mais il est d'expression espagnole, donc c'est une version extraordinaire. Et le générique est à la mesure de la démesure du film, effectivement. Il y a dans cette dernière partie, notamment une sorte de détournement, je pense que ça plairait beaucoup à Michel Hazanavicius, de partie de campagne de Jean Renoir. On entend la bande-son et on voit d'autres images qui sont tout à fait extraordinaires. J'en dis pas plus parce qu'il faut laisser la surprise. Mais la façon dont Linas, une fois de plus, se saisit du cinéma, de son histoire, aussi de son actualité, du plaisir charnel décidément qu'on a à voir des images et lui à les faire, que la Flore 4, dernière partie, est à l'unisson du film globalement. Il faut le répéter, il faut essayer de dégager le temps nécessaire pour aller voir, au moins en 4 parties, ce film fleuve, ce film extraordinaire, ce film cinéma.
Vous avez envie d'aller le voir, par exemple?
Là, ça me donne envie, ouais. Vous en parlez bien.
La lutte des classes de Michel Leclerc avec Leïla Bekti, Édouard Baird, Sophia et Paul, ce sont eux, emménage dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d'origine maghrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur, punk rock et anard dans l'âme. Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin. Il élève à Jean Jaurès, l'école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l'école publique pour l'institution catholique Saint-Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? Ah, les bobos face à leurs contradictions, la mixité sociale acceptée dans les têtes mais pas dans les faits. C'était malin comme intention, mais à force de retourner les clichés, Michel Leclerc finalement en crée d'autres tout aussi lourds. Dans une multitude de situations, on a envie de dire... Range ta chambre, Michel. Range ton film.
C'est pas faux. Oui, mais et avec sa co-scénariste, qui est son épouse, hein, ils sont tous les deux responsables du résultat final, si je puis dire. Effectivement, il y a quand même des clichés, quoi. Il y a un juif, il est sécuritaire. Il y a une institutrice, elle est dépassée. Il y a un directeur d'école, il glosse pendant tout le film sur la destruction de l'école publique et résultat, son école tombe en ruine physiquement. Et puis il y a cette fin dont il ne faut pas parler parce qu'on va nous reprocher de divulgâcher, mais qui est terrible sur le vivre ensemble. C'est une façon bêtasse de résumer les choses et ça plombe alors pour le coup même toutes les bonnes intentions du film.
Je veux du soleil de François Ruffin et Gilles Le Perret. Ils ont traversé le pays à la rencontre des Gilets jaunes, un road movie politique et même engagé. Un doc indigné, un doc justicier, Laurent.
Un doc gilet jaune. On a envie de dire enfin, parce que ça fait quelques mois qu'on se dit que ça serait bien que le cinéma s'empare aussi du réel, de ce qui se passe. Parfois, on dit qu'il y a un tel décalage entre notamment les comédies françaises et puis ce qui se passe dans la rue. En même temps, on peut pas reprocher. On sait bien qu'un film, c'est très long à faire. Alors, l'avantage du documentaire, c'est que il peut être tourné en décembre 2018 et puis être montré maintenant. C'est ce qui se passe de Amiens aux plages du Languedoc, en passant par l'Ardèche et Dions dans le Gard. Et ce film donne la réalité de ce mouvement social, la réalité dans ses profondeurs, pas dans ses côtés violences telles qu'on les montre à la télé, mais dans ce qu'il montre de la désertification des campagnes, des fins de mois extrêmement difficiles, de la solidarité qui s'est mise en place autour de ces gilets jaunes et autour de ces ronds-points. Le député Ruffin et le cinéaste Perret font, je crois, œuvre utile en nous montrant cette réalité-là. Il faut, je crois, vraiment se confronter à ça, après à chacun de juger, à chacun d'avoir ses réactions, mais ce document fait vraiment œuvre utile. Je veux du soleil.
Comme si de rien n'était, un premier film et même un film de fin d'études de cette réalisatrice allemande qui s'appelle Eva Trobisch. Selon moi, c'est le film le plus passionnant de la semaine. Jeanne, une jeune femme moderne, éduquée, rationnelle, nous dit la brochure, lors d'une réunion d'anciens élèves de son école, va se faire violer par l'un d'eux, un viol filmé de façon banale, un acte minable et pathétique. Jeanne décide de se relever, refuse de se considérer comme une victime, bref, faire comme si de rien n'était. Les jours qui suivent, elle va retrouver donc son agresseur. partenaire de la maison d'édition dans laquelle elle vient d'être engagée. Jusqu'où peut-on se considérer plus forte que l'agresseur ? Le film analyse très subtilement, sans cri, sans pathos, ce ressenti totalement intériorisé jusqu'à ne même pas en parler à son amoureux. À l'heure de MeToo, c'est comme si de rien n'était, c'est une analyse troublante qui ne charge personne, mais analyse froidement, sans stéréotyper ni la victime ni l'agresseur, les effets boomerang de cet acte-là sur le corps et le visage de cette actrice incroyable. Elle s'appelle A.N. Schwartz.
J'approuve, j'ai rien d'autre à dire.
L'homme à la moto de Agustín Toscano, Tucumán en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en pratiquant le vol à l'arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu'il dérobe un sac à une vieille dame, il la blesse grièvement, rongé par la culpabilité, il tente de soulager sa conscience en s'occupant d'elle, mais sans lui dire. L'accident est arrivé il y a quelques années à la mère du réalisateur et à partir de là, il a développé cette intrigue imaginaire sur la culpabilité.
Exactement. C'est un joli film. C'est, évidemment, c'est assez ténu. Hein. C'est une histoire même qu'on a déjà un peu vue, c'est-à-dire le voleur repenti qui, en plus, il agresse une vieille dame, donc il est encore plus bouffé par la culpabilité. Donc il essaye par tous les moyens de se racheter à ses yeux, à lui, à ses yeux, à elle, mais sans, effectivement, sans le lui dire. Donc ça, bon, c'est assez ténu, mais ça marche très très bien parce que le réalisateur Toscano arrive à nous faire toucher au plus près la sensibilité de ces personnages, c'est très très bien incarné en plus, et puis ça décrit une ville qui est complètement au bord du chaos en Argentine pour des raisons sociales et politiques et économiques sur lesquelles on ne reviendra pas ici, mais il y a une façon aussi de dresser un portrait social de cette ville, un peu d'ailleurs comme la comédie italienne qu'on évoquait tout à l'heure, donc c'est assez réussi cet homme à la moto.
Los Silencios de Béatrice Seignet, Nouria 12 ans, Fabio 9 ans et leur mère arrivent dans une petite île nommée Fantasia au milieu de l'Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou, dans ce village très pauvre sur pilotis. Ils ont fui le conflit avec les FARC dans lequel leur père a disparu. Ça c'est la partie réaliste du film, jusqu'à la réapparition mystérieuse du père dans la nouvelle maison. Et le film d'ailleurs devient alors une espèce de fable où le mort apparaît aussi réel qu'un vivant. C'est une métaphore, les silences donc, à qui le film donne la parole dans cette sorte d'allégorie politique.
Oui, c'est un grand classique de la littérature d'Amérique latine, le réalisme magique, c'est-à-dire cette façon de réincarner, réenchanter, revivifier et la mort et la réalité à la fois. Alors on a ici une grande ode à la nature, l'Amazone, les sons de la forêt, les cris des animaux, le bruissement des feuilles, c'est un cinéma organique. Si on accepte ça, si on accepte cette façon de se laisser plonger, envahir par les vivants et les morts, oui, mais bon, voilà, comme il y a des équivalents littéraires, on peut se plonger dans Garcia Marquez, par exemple, on peut se plonger dans ce film de façon un petit peu identique.
Et on mérite la scène finale qui est absolument magnifique.
Absolument.
Tel Aviv on Fire de Sameh Zouabi, quel drôle de film. Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire. Tous les matins, il traverse le même checkpoint pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien, assis, fan de la série. Et pour s'en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par assis un nouveau scénario. Bref, l'occupant vient imposer sa réalité à l'occupé, ou comment traiter un sujet sérieux, le conflit israélo-palestinien, sur le ton de la comédie, sujet casse-gueule et ambitieux, réalisé avec les moyens du bord, ceux du soap, pas très subtil toujours, mais avec cette belle idée au centre, en passant par la fiction rocambolesque pour raconter un quotidien absurde.
Oui, puis c'est une belle métaphore du cinéma aussi, hein, qui écrit le scénario, qui est le producteur, à qui on rencontre, etc. C'est un film que nos invités d'aujourd'hui devraient aller voir, parce que je pense que ça leur parlera beaucoup de choses du quotidien qu'ils vivent au-delà du conflit israélo-palestinien.
Un festival, Laurent, à Brive.
Oui, vous avez deux jours encore pour aller, pour être et pour aller à Brive, puis et aux rencontres internationales du moyen métrage au cinéma Le Rex, en partenariat avec la SRF. Vous y verrez 22 films en compétition, mais aussi des rétrospectives Jean-Daniel Paulet, Claire Simon, Miloš Forman, Jonas Mekas et bien d'autres encore. Et puis un concert, je le signale, parce qu'il y a encore quelques places, le Grand Rex, 17 et 18 avril prochain à Paris, concert hommage à Michel Legrand avec Michel Portal, Nathalie Dessay et bien d'autres encore. Allez-y.